Shalom Uvracha, que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous ce matin. Hier, donc, nous avons commencé à aborder ce sujet qui nous rassemble pendant ces jours sur l'actualité et la prophétie. Et hier, j'ai essayé de vous donner ce qu'est la clé de la compréhension de la prophétie et finalement de toute l'histoire d'Israël passée, donc l'histoire, et future, c'est-à-dire la prophétie. Nous allons entrer ce matin dans le vif du sujet et j'aimerais que nous fassions plusieurs lectures. Tout d'abord dans le chapitre 63 du livre du prophète Ésaïe. Une étrange prophétie comme nous allons le voir. Une prophétie qui est un dialogue entre le prophète et un mystérieux interlocuteur que nous allons essayer d'identifier. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements de couleur vive, en habits éclatants et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? Réponse. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Question. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui fout l'oppressoir? Réponse. J'ai été seul à fouler à la cuvée, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'en ai taché tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés était venue. Je regardais, personne pour m'aider, j'étais désolé, personne pour me secourir, alors mon bras m'est venu en aide. Et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Qui est ce mystérieux personnage auquel le prophète adresse ses questions? La première évidence qui est la nôtre quand nous lisons ce texte, c'est qu'il s'agit d'un guerrier qui revient du combat. Il est couvert de sang et en même temps, il revient victorieux. Victorieux d'une bataille tout à fait étrange et où il nous est dit qu'il a été amené à combattre une foule d'ennemis et il a été seul à mener ce combat. Un individu contre une multitude. Logiquement, il aurait dû être vaincu. En réalité, il est revenu en vainqueur. Il s'agit donc d'un guerrier très particulier et très spécial. Il nous est dit qu'il vient aussi de Botsra et du pays d'Édom. Tout à l'heure, nous allons nous arrêter plus longuement sur cette expression. Et bien sûr, pour que un seul met en déroute des milliers, il faut que ce soit un personnage surnaturel. Et la seule réponse, c'est qu'il s'agit de Dieu lui-même. Ou, comme le diront les sages d'Israël, ça peut être aussi son Messie. Et les sages d'Israël ont vu dans cette prophétie une prophétie sur les temps de la fin, qui connaîtront un contexte très particulier. L'essentiel du combat que donc le guerrier en question, c'est-à-dire l'Éternel et son Messie, ou son Messie, finalement, il s'agit d'un seul et même personnage d'une certaine manière, puisque le Seigneur est dans son Messie, et ce personnage, eh bien, il a combattu essentiellement des forces qui sont rassemblées autour d'un pays qu'il appelle Édom. Édom, c'est un tout petit pays qui se trouvait situé grosso modo entre le sud de la mer Morte et la mer Rouge. Un pays qui n'a jamais eu beaucoup d'importance dans l'histoire, contrairement au peuple d'Israël. Il en est parfois question dans la Bible, dans ce sens que Israël a été amené soit à combattre contre Édom, soit à le subjuguer. parfois Édom s'est révolté aussi et a retrouvé son indépendance, mais une chose est sûre, c'est que historiquement parlant, ce peuple a disparu 70 ans, un peu plus de 70 ans, avant la naissance de Jésus. Et quand nous lisons les textes prophétiques, dont celui-ci entre autres, nous nous rendons compte que dans les prophéties de la fin, Édom doit jouer un rôle essentiel. Comment un pays qui a disparu il y a plus de 2000 ans pourrait-il jouer au temps de la fin un rôle aussi important que celui que les prophéties lui attribuent? Et là aussi, les sages d'Israël nous donnent la réponse. Édom, c'était le nom aussi du frère de Jacob, encore appelé Ésaü. Et nous lisons dans le livre de la Genèse que la mère de ses deux enfants, Rebecca, s'était trouvée enceinte de jumeaux. Et elle avait constaté, chose peu banale, que ses garçons étaient en train de se battre dans son ventre. C'est plutôt mauvais signe. Si alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère, ils commencent déjà à se battre, qu'est-ce que ce sera quand ils seront nés? Et c'est pourquoi Rebecca va consulter l'Éternel. Et Dieu lui dit, deux peuples sont dans ton ventre et deux nations se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. Ça veut dire qu'il y a déjà une destinée particulière de ces deux enfants. Et lorsque vient le moment de l'accouchement, le premier qui sort du ventre de la mère est un garçon qui est couvert d'un duvet roux. Alors on va lui donner le nom de Ésav, ça nous donne en français Ésaü, ça veut dire le velu. Mais on lui donne un autre nom, Édom. Ça veut dire le roux, le velu roux. Puis sort son frère qui tenait encore le talon d'Ésaü dans sa main. Ça veut dire que jusqu'au dernier moment, ils se sont battus. Et les traces de cette bataille sont encore visibles à l'accouchement puisque le cadet tient dans ses mains le talon de son aîné. Alors on va l'appeler Yaakov, du mot « akov » en hébreu, qui signifie deux choses, le talon. Ce qui veut dire que Jacob va signifier le talonneur. Maintenant, le talon, c'est aussi l'endroit où la jambe se tord. Et « akov », ça veut dire aussi le tordu. Jacob, c'est le talonneur, mais c'est aussi le tordu. Tordu dans, je dirais, son psychisme. Et l'histoire de Jacob va montrer tout ce que ce nom avait en ce qui le concernait de prophétique. Et ces deux enfants vont être effectivement en conflit l'un contre l'autre. Et finalement, ce qui a été prophétisé à Rebecca du vivant de ces deux peuples, puisque deux peuples, comme l'avait dit la prophétie à Rebecca, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le premier, c'était le peuple d'Édom, et le second, c'était bien entendu le peuple d'Israël. Or, dans l'histoire réelle, le pays d'Édom n'a jamais véritablement dominé sur Israël. Comment la prophétie faite à Rebecca pourra-t-elle s'accomplir? Et là, les sages nous répondent, ils nous disent voilà. Lorsque une prophétie commence de la manière suivante, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel », ou bien une expression un peu semblable, « Dans ce temps-là, dit l'Éternel ». Quand nous avons des prophéties qui commencent par ces deux expressions, ça veut dire que ce sont des prophéties qui concernent la fin des temps. Et si dans ces prophéties, il est question d'Édom, il ne faut pas voir dans cette expression le nom du peuple historique qui donc a disparu, comme je le disais, il y a un petit siècle avant la venue de Jésus, mais le quatrième empire de Daniel. Quatre empires, donc, que sont Babylone, la Perse, la Grèce et un quatrième royaume mystérieux qui n'est jamais nommé parce qu'à l'époque du prophète Daniel, ce royaume-là n'existait pas. Nous, nous savons, puisque nous vivons bien après le prophète Daniel, que l'empire qui a succédé à l'empire grec, le troisième empire, n'est autre que l'empire romain. Et les sages d'Israël nous disent, cet empire-là, les prophètes ne pouvaient pas le nommer, puisque de leur temps, il n'existait pas. Alors, ils l'ont appelé Édom. Et lorsque dans les prophéties messianiques, ces prophéties qui, comme je le disais, commencent par « Voici les jours viennent » ou « Dans ces jours-là, dit l'Éternel », il ne faut pas comprendre Édom, le peuple historique qui a porté ce nom, mais le quatrième empire, l'empire romain. Et nous voyons que Jésus a repris aussi à son compte cette tradition. Et dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, dans une célèbre querelle qui a eu lieu le soir de Pâques entre les disciples pour savoir qui d'entre eux devait être considéré comme le plus grand, Jésus cite en quelque sorte la prophétie qui a été faite à Rebecca alors qu'elle était allée consulter l'Éternel. Il dit voilà, les rois des nations les dominent et ceux qui les oppriment se font appeler bienfaiteurs. Les nations, c'est un mot codé que l'on employait en Israël à cette époque-là pour désigner l'Empire romain. L'Empire romain traquait sans merci tous les écrits qui pouvaient paraître subversifs en ce qui concerne l'Empire romain. Et ceux qui les écrivaient se retrouvaient soit dans l'arène avec les lions, soit dans les mines de sel de Sardaigne, ce qui était peut-être encore pire. Alors, quand on voulait s'en prendre à l'Empire romain, critiquer l'Empire romain, voyez-vous, la liberté d'expression n'existait pas à cette époque-là, pas plus qu'elle n'existe de nos jours, puisque de nos jours aussi la liberté d'expression est en train de se restreindre, eh bien, alors on employait des mots codés. Et si le Nouveau Testament nous est parvenu, c'est justement parce qu'il a échappé à la censure romaine, parce que ceux qui l'ont écrit ont employé ces mots codés. Alors, quand on voulait parler de Rome, on employait, entre autres choses, le mot « les nations », parce que l'Empire romain était un conglomérat de nations. Et on employait aussi l'expression « Édom ». Ça, les Romains ne le comprenaient pas. Quand il était question d'Édom, qui était un peuple qui était encore, à cette époque-là, il en restait quelques vestiges qui avaient été intégrés dans l'Empire romain, eh bien, bon, il y a eu une querelle entre les Édomites et puis les Juifs. Bon, ça ne les dérangeait pas. Ils ne comprenaient pas que c'était d'eux qu'on parlait. Or, Jésus nous dit, les rois des nations, c'est-à-dire les rois de Rome, les empereurs romains, dominent sur eux et ceux qui les oppriment se font appeler bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous, mais que le plus grand soit comme le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus jeune, avait dit le prophète à Rebecca, et par conséquent que celui qui dirige soit comme celui qui sert. Et ici, c'est une prophétie que Jésus adresse à ses disciples, une prophétie qui est écrite d'une manière voilée, précisément parce que c'est une prophétie anti-romaine. Et si les Romains l'avaient comprise, eh bien, ce texte ne nous serait pas parvenu aujourd'hui. Et qu'est-ce que Jésus prophétise dans ce domaine-là? Exactement ce que le prophète qui avait parlé à Rebecca lui avait annoncé. Pour l'heure, eh bien, le plus petit, il y a deux frères ennemis, Édom, Rome, et Jacob, Israël. À l'heure où Jésus parlait, il dit, eh bien, aujourd'hui, Jacob, Israël, est sous la domination de Rome, Ésaü, qui les opprime. Mais un jour viendra, selon la prophétie qui a été dite à Rebecca, où il y aura un renversement de la situation. Et le peuple le plus grand, Rome et Édom, sera assujetti au plus petit, Jacob, Israël. C'est une prophétie sur les temps de la fin. Vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais à l'heure où nous parlons, en cette année 2019, Rome, en tant qu'empire, a disparu depuis longtemps. Or, les sages d'Israël aussi ont répondu à cette question. Ils nous disent, et on voit ça notamment dans la fameuse vision du roi Nebuchadnezzar que Daniel a expliquée, la vision de la grande statue, que l'Empire romain, le quatrième empire, passe par plusieurs phases. Une phase où il est représenté par les jambes de la statue qui sont entièrement de fer. Ça veut dire, c'est un empire monolithique, c'est un empire qui est un. Puis ensuite, il se divise en 10 orteils. Ça veut dire 10 royaumes. Bon, 10, ce n'est pas un chiffre à prendre à la lettre. Comme dans les Apocalypses, c'est un chiffre symbolique. Mais un certain nombre de royaumes vont sortir d'une désintégration, d'une dégénérescence de l'Empire romain. Mais sous la forme de ces royaumes, les nations, comme Jésus l'a annoncé, les rois des nations, l'Empire romain subsistera jusqu'à la fin. Et cet Empire romain, eh bien, il est situé dans les frontières de ce que fut l'Empire romain historique, c'est-à-dire que cela correspond à l'Europe. L'Europe qui est marquée, entre autres choses, depuis ses origines, même avant le christianisme, par une intense judéophobie, une haine d'Israël. L'antisémitisme fait partie, est un des éléments constitutifs de la civilisation et de la culture européenne. Après la Shoah, on a pu penser que ce vieux sentiment disparaîtrait. En réalité, ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, l'antisémitisme en Europe en général et en France en particulier est en pleine renaissance et en plein essor. Et il n'y a pratiquement pas un juif en France qui n'ait été agressé au moins verbalement parce que justement il était juif. Le juif est celui qui rappelle à cette Europe qui entre dans une vision pacifiste, inconditionnel, au point de se coucher devant ses pires ennemis, et elle rappelle des très mauvais souvenirs. La guerre, cette guerre dont on ne veut plus. La Shoah, qui marque la conscience de l'Europe d'une flétrissure absolument irrévocable. Alors, on préfère tourner cette page. On préfère mettre les Juifs de côté. Et une nouvelle forme d'antisémitisme est en train d'apparaître. Et malheureusement, nourrie par l'antisionisme, qui est une nouvelle forme d'antisémitisme, eh bien, ce virus mutant, comme le disait Pierre-André Taguieff, qui était un chercheur qui a beaucoup travaillé sur l'antisémitisme, ce virus mutant de l'antisionisme, c'est-à-dire de l'antisémitisme, est en train de pénétrer au sein des églises par l'intermédiaire des médias et de la propagande pro-palestinienne. Ça, nous allons en parler dans un instant. Maintenant, les sages d'Israël nous disent ceci. Pourquoi l'Europe est-elle considérée comme le frère jumeau, mais en même temps le frère ennemi d'Israël? Parce que l'Empire romain a fini par accepter le christianisme comme la religion officielle de l'Empire. Or, le christianisme, c'est une religion juive. Et ce faisant, les Européens et les Juifs, les Européens christianisés, je ne dis pas les Européens chrétiens, mais je dis les Européens christianisés, sont frères des Juifs. Mes frères ennemis. Et de la même manière qu'il y avait cette bataille dès le sein de la mer entre Ésaü et Jacob, de la même manière, depuis les origines, il y a conflit entre les chrétiens des nations et les juifs. Et nous le savons, Il n'y a pas de pire haine, il n'y a pas de pire conflit que les haines entre frères. Il n'y a pas de conflit plus cruel que les guerres civiles entre frères. Et la terrible querelle qui a divisé chrétiens et juifs depuis les origines jusqu'à nos jours est une des pires de toute l'histoire humaine. Et ce n'est pas sans raison que les juifs considèrent que le chrétien, le christianisme en général, est le pire ennemi auquel ils aient affaire. Bon, ça, j'y reviendrai dans un instant. Et ce faisant, donc, il y a justement ce conflit qui est en train de renaître entre une Europe qui est en train de refaire son unité, qui a comme rêve de reconstituer l'Empire romain, et Israël qui est comme ce grain de sable, ou plus exactement, pour reprendre l'expression du prophète Daniel, comme cette pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main et qui va venir frapper les pieds de la statue pour la détruire. Et déjà, donc, dans les accords Eurabia qui ont été passés en 1975 entre la communauté européenne, dirigée par M. Giscard d'Estaing, alors président de la France, et les représentants de la Ligue arabe, il y avait un article qui disait que sur le plan du conflit israélo-arabe, l'Union européenne alignerait sa politique sur celle de la Ligue arabe. Autrement dit, sacrifierait Israël au crocodile. Je citerai ici une phrase dont Churchill avait l'apanage, mordante et cinglante comme il le faisait. C'était après les accords de Munich en 1938, quand lâchement la France et la Grande-Bretagne avaient vendu la petite Tchécoslovaquie aux nazis. Et au nom du pacifisme, et les deux compères, le français et le britannique, affichaient au peuple cette déclaration de non-belligérance d'Hitler, n'est-ce pas, en proclamant c'est la paix pour notre temps, c'est la paix pour 1000 ans. Et cette dangereuse illusion, Churchill l'a dénoncée depuis la tribune des communes en disant, eh bien, les pacifistes, ce sont des gens qui nourrissent le crocodile en espérant qu'ils seront les derniers à être mangés. Et aujourd'hui, l'Europe est exactement dans ce même esprit munichois, nourrir le crocodile, sacrifier Israël en espérant que nous serons mangés les derniers. Mais, et c'est justement la bonne nouvelle, au temps de la fin, eh bien, ces deux frères ennemis se réconcilieront, c'est-à-dire comme Ésaü et Jacob ont fini par se réconcilier. Donc ici, je reviens à notre texte, après avoir fait cette longue digression, notre texte d'Ésaïe 63, le guerrier victorieux vient d'Édom. Pourquoi? Parce que cet avènement du royaume messianique, cette réconciliation entre les frères ennemis, eh bien, ne s'accomplira pas d'une manière paisible. Mais comme l'avons vu hier soir, au travers de ce qu'en hébreu on appelle les chevelé Mashiach, c'est-à-dire les souffrances de l'enfantement messianique. Et ces souffrances de l'enfantement messianique, ce seront des souffrances qui seront marquées en particulier par des guerres. Et une série de guerres que, dans la tradition juive, on appelle les guerres de Gog et de Magog. Et ces guerres de Gog et de Magog, qui sont longuement décrites dans Ézéchiel 38 et 39, qui sont également décrites dans la fin du livre du prophète Zacharie, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14 et même avant, eh bien, ces guerres, elles seront marquées justement par un phénomène très particulier qui est décrit ici dans le texte que nous avons lu. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, qui sera rassemblé sur la terre de ses ancêtres dans les temps de la fin, mais qui le sera d'une part avec l'accord des nations et en même temps avec toute la suspicion que les nations auront à son endroit jusqu'au temps de la fin, eh bien, ce retour d'Israël dans son pays provoquera des guerres de la part des nations et des guerres qui s'amplifieront jusqu'à atteindre un point tel que toutes les nations se rassembleront contre Israël. Vous trouvez ça aussi dans le livre du prophète Zacharie. D'où justement ici le fait que dans le texte d'Ésaïe 63 que nous avons lu, nous trouvons un guerrier contre tous les peuples. Et comme le disaient des sages du Moyen-Âge en Espagne au XIIIe siècle qui ont commenté ce texte, ils disaient, eh bien, on verra dans ces temps de la fin un phénomène unique, quelque chose de jamais vu dans l'histoire. Ça veut dire les nations, toutes les nations contre un seul peuple, le peuple d'Israël. Du jamais vu dans l'histoire, parce que toutes les nations ont toujours eu des alliés. Même les nations les plus cruelles, ce qu'on appellerait aujourd'hui les États voyous, ils ont toujours eu des alliés. Hitler avait des alliés. Staline avait des alliés. Mao Tse-tung avait des alliés. Le Coréen aujourd'hui a des alliés. L'Iran a des alliés, etc. Mais au temps de la fin, on verra cette situation unique où Israël sera traité par les nations comme pire que le pire des États voyous. Ça veut dire qu'il aura toutes les nations contre lui. Et quand on verra cette situation, alors on saura que c'est la dernière bataille. Et dans ce temps-là, dit le Baal HaTourim, le commentateur juif du XIIIe siècle en Espagne, il nous dit ceci, quand Dieu verra que personne ne se tient aux côtés du peuple d'Israël, alors il dit, eh bien, puisque Israël n'a plus aucun allié, il n'en a plus qu'un seul, c'est moi, l'Éternel. Et moi, l'Éternel, je me lèverai et j'interviendrai. Puisque aucune nation ne peut venir en aide, et notre texte ici dit cela, que le guerrier se pose la question, mais comment se fait-il qu'il n'y ait aucune nation qui ne vienne en aide à Israël? Il dit, puisque c'est ainsi, eh bien mon bras, à moi l'Éternel, va lui venir en aide. Et cette aide de l'Éternel, de cet unique guerrier, vaudra plus que l'ensemble des nations de la terre coalisées contre le peuple d'Israël. Alors vous allez me dire, mais nous n'en sommes pas là. Car aujourd'hui, Israël a un allié de poids. La plus grande nation du monde, la plus puissante sur le plan diplomatique, économique et surtout militaire, les États-Unis. Et de fait, depuis maintenant le début de l'administration américaine actuelle, en la personne de M. Trump, le mal-aimé par le monde entier, eh bien Israël a le plus grand allié qu'il n'ait jamais eu dans son histoire. Et cette amitié profonde de M. Trump pour Israël, eh bien, fait qu'Israël aujourd'hui est protégé par ce grand allié. Vous allez me dire, alors nous ne sommes pas du tout dans le contexte ici de ce qui est annoncé dans ce chapitre 63 du livre du prophète Ésaïe. Seulement, Israël est bien conscient que cette administration pro-israélienne qui est aujourd'hui à la tête des États-Unis, eh bien, comme on le dit aussi parmi les évangéliques aux États-Unis, c'est une fenêtre d'opportunité que Dieu a ouverte à la fois pour le peuple d'Israël et aussi pour les États-Unis, pour permettre à peut-être aussi un sursis à ce pays, à ces pays, en ce qui concerne l'Évangile. Mais on est bien conscient que M. Trump ne sera pas toujours au pouvoir et que le balancier finira par osciller de l'autre côté et que les démocrates reviendront au pouvoir. Et les démocrates, ce sont aujourd'hui aux États-Unis les pires ennemis d'Israël. Jamais le Parti démocrate aux États-Unis n'a été aussi extrémiste, aussi anti-israélien, anti-sioniste, au point qu'il y a même au Congrès deux députés qui sont d'origine palestinienne et qui ne cessent de vilipender Israël et d'exiger donc ici sa disparition. Et c'est pourquoi il nous faut observer la scène internationale avec beaucoup de soin, pour que nous comprenions justement ce qui est en train de se passer. Il y avait il y a quelque temps de cela, je faisais plusieurs années maintenant, une conférence un peu sur ce sujet, et un frère est venu me voir après la réunion en me disant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit quand vous avez affirmé que il fallait s'attendre à ce qu'un jour les États-Unis abandonnent Israël. Je connais très bien les États-Unis, j'y vais souvent, et je peux vous dire une chose. L'amitié entre Israël et les États-Unis est telle que jamais les États-Unis n'abandonneront Israël. Je lui dis, mon cher frère, il ne faut jamais dire jamais, surtout quand la Bible dit le contraire. Et je vous citerai simplement ce que disait le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Pour le moment, les intérêts d'Israël et des États-Unis coïncident, et c'est vrai qu'il y a plus que des intérêts, il y a aussi une affinité grâce à la culture biblique qui a profondément marqué les États-Unis. Mais si un jour les États-Unis voient leurs intérêts diverger d'avec ceux d'Israël, eh bien, sans un état d'âme, ils abandonneront Israël. Il y avait une personne juive avec laquelle je m'entretenais dans un camp de vacances où j'étais en juillet dernier, et j'avais un peu parlé sur ces questions. Et elle était, tu me vois, parce qu'elle était très inquiète. Elle disait, la situation des Juifs en France devient une situation très pénible. Et voilà, je ne sais trop que faire. Je lui ai dit, écoutez, madame, la Bible est claire. Allez dans votre pays. Allez en Israël. Oui, mais en Israël, il y a la guerre. Vous savez, vous comprenez, etc. Je lui ai dit, oui, il y a la guerre, c'est vrai. Mais dites-vous bien une chose. C'est que quand, ici, on recommencera à persécuter les Juifs, et ça peut venir bien plus vite que vous ne le pensez. Car si, comme malheureusement c'est en train, nous sommes en train de marcher tout droit vers un conflit avec l'Iran, eh bien, ce qui se passera, c'est que l'Iran activera tous les réseaux dormants qu'elle a en Europe, et les Juifs seront au premier rang de la persécution qui éclatera alors. De la vague de terrorisme qui marquera l'Europe quand viendra ce moment-là. Et dites-vous bien une chose, madame, c'est que dans ce moment-là, personne, à part quelques rares chrétiens, personne ne lèvera le petit doigt pour vous venir en aide. Surtout pas l'armée ni la police. Surtout pas les pouvoirs publics. Vous serez abandonné seul. Oui, si vous allez en Israël, il y a la guerre, c'est vrai. Mais là-bas, vous avez une armée pour vous défendre. C'est toute la différence. Alors, voyez-vous ici, nous sommes exactement dans le contexte de cette prophétie. Maintenant, je voudrais prendre un deuxième texte dans le livre du Deutéronome, tout d'abord au chapitre 30. Là, nous avons dans ce qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, une des rares prophéties sur l'exil et le retour. Et voici ce qui nous est dit, verset premier. Lorsque toutes ces paroles se réaliseront pour toi, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations parmi lesquelles ton Dieu t'aura banni, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout son cœur, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et il aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura disséminé. Quand bien même tu serais banni à l'extrémité des cieux, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est de là qu'il ira te prendre. L'Éternel, ton Dieu, te fera revenir dans le pays que possédaient tes pères. Tu en prendras possession. Il te fera du bien, et il te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. C'est une prophétie qui est d'une portée générale. Beaucoup de ceux qui contestent que l'état d'Israël actuel soit l'accomplissement des prophéties nous disent oui, mais les prophètes qui ont prophétisé le retour d'Israël l'ont fait en ce qui concernait le retour de l'exil de Babylone, et par conséquent, toutes ces prophéties sont accomplies, nous n'en avons plus à attendre pour notre temps. Or ici, il y a un point très intéressant, c'est qu'il nous est dit, quand bien même tu serais banni aux extrémités des cieux. Donc il est question ici d'un exil qui sera un exil universel dans le monde entier, aux extrémités des cieux. Remarquons que Jésus a repris cette expression dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, verset 23, quand il dit que les habitants de Jérusalem seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Israël a connu 4 exils dans son histoire. Le premier, c'est l'exil en Égypte. Et l'exil en Égypte était limité, bien évidemment, à l'Égypte. Donc, il ne peut pas entrer dans le cadre de ce qui est prophétisé ici. Deuxième exil, l'exil babylonien. Et cet exil-là, lui aussi, il était limité géographiquement à la Babylonie, un peu à l'Égypte, un peu à quelques pays voisins, Chypre par exemple, et puis des pays limitrophes. Certainement pas dans le monde entier. Troisième exil, l'exil perse. Celui qui est dépeint notamment dans le livre d'Esther. Et là aussi, cet exil, il était limité aux frontières, énormes il est vrai, mais quand même limitées, de l'Empire perse, et ne comprenait pas le monde entier. Le seul exil qui réponde à la définition qui nous est donnée ici par Moïse, c'est ce qu'on appelle le quatrième exil, l'exil d'Édom. On l'appelle l'exil d'Édom parce que c'est Rome Édom qui a été le premier à disperser les habitants de Jérusalem après la ruine de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et c'est cet exil-là dont Jésus a parlé quand il dit « jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ». Et il est intéressant de noter que ici, Moïse laisse entendre très nettement que cet exil sera le dernier. Il n'y aura plus d'autre exil après. Donc l'Éternel te ramènera dans ce pays. Il te rendra plus nombreux et plus heureux que tes pères. L'Éternel circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Donc ici, il s'agit bien de l'exil qui, à la suite duquel naîtra le royaume messianique. Mais, comme nous l'avons vu, ce royaume messianique, même quand le peuple d'Israël aura été rassemblé des extrémités de la terre comme il l'est aujourd'hui, alors il y aura néanmoins des temps difficiles. Et ces temps difficiles, ils sont aussi prophétisés par ce même Moïse dans le chapitre suivant du livre du Deutéronome, c'est-à-dire le chapitre 31. Et je lis ici le verset 29 de ce long chapitre. On pourrait aussi s'arrêter longuement sur le chapitre 32, qui, selon les sages d'Israël, est un chapitre qui prophétise toute l'histoire d'Israël jusqu'au temps de la fin. Mais évidemment, ce n'est pas notre but cet après-midi, donc je me contenterai ici de ce verset 29. « Car je sais, dit Moïse, qu'après ma mort, vous vous corromprez honteusement, et vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur vous arrivera dans les temps à venir, quand vous ferez le mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. » Bon, là, j'ai lu dans une version qui est une version française, bien sûr. Et bien souvent, les traducteurs ne sont pas au fait du véritable hébreu. Et j'ai constaté, après avoir fait deux traductions de la Bible, qu'il y a ce que j'appelle un hébreu juif et un hébreu chrétien, qui n'est pas tout à fait le même. Et il y a une tradition de traduction d'un certain nombre de termes qui sont, pardonnez-moi l'expression, très souvent à côté de la plaque, parce que justement, les traducteurs ne connaissent pas suffisamment l'hébreu juif et vivent sur cet héritage de ce que j'appelle l'hébreu chrétien. Et c'est le cas ici pour notre verset 29, et en particulier ce qui nous est dit ici, « Un malheur vous arrivera dans les temps à venir. » Alors, je vais dire la phrase en hébreu exact. « D'abord, cette dernière expression, « acheret ayamim ». Alors, on traduit cette expression systématiquement dans pratiquement toutes les versions par les temps à venir. J'ai mes petits-enfants qui, depuis 10 ans maintenant, vivent en Israël. Ils parlent l'hébreu couramment. Et il y a 2 ou 3 ans de cela, quand ils sont revenus en France, je leur ai posé la question: comment est-ce que vous traduiriez en français l'expression Acheret Hayamim? Et tous les trois, dans un même souffle, ils m'ont répondu: temps de la fin. Pas temps à venir, mais temps de la fin. Bon, il est vrai que dans certains cas, et notamment dans la Bible, Acheret Hayamim peut signifier quelque chose qui est à venir, mais quand on emploie l'expression Acheret Hayamim, ça veut dire les temps de la fin. Donc ici, nous avons une prophétie qui concerne les temps de la fin, bien que les traducteurs de nos versions ne l'aient pas compris. Maintenant, il y a une autre ici expression qui fait problème. Ukarata lecha araa. Littéralement, on criera, on proclamera un malheur sur toi. Et là, on a traduit par et le malheur vous arrivera. C'est complètement à côté. Et je crois même que c'est second, me semble-t-il, qui a tout simplement, il ne s'est pas embêté, il a supprimé cette expression. Alors, et c'est pourtant ici essentiel, on criera un malheur sur toi à la fin des temps. Et là, je reviens à ce commentaire du Baal HaTourim que j'évoquais tout à l'heure, ce sage du Moyen Âge, qui disait ceci, et ça, c'est écrit au XIIIe siècle, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait pas de journaux, il y avait encore moins de radio, encore moins de télévision, d'Internet et de tout ce que vous voudrez. Il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas de moyens d'information. L'information, elle circulait de bouche à oreille. Or, nous dit le Baal HaTourim, dans les temps de la fin, eh bien, Édom, parce que c'est associé au texte que nous avons vu tout à l'heure, Édom, et celui qui va lancer cette guerre de Gog, cette guerre de la fin, eh bien, attaquera Israël. Il attaquera Israël, mais la guerre qu'il mènera contre Israël ne sera pas une guerre qui sera menée par des chars, des cavaliers, des arcs et des flèches et des épées, mais par une parole, l'arme la plus meurtrière de Gog au temps de la fin. L'arme la plus meurtrière d'Édom sera une parole dite, proclamée, karata, on hurlera, littéralement, un malheur contre toi. Ça veut dire que le Baal HaTourim au XIIIe siècle a décrit ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir une guerre médiatique contre Israël. Et depuis 1967, après la défaite arabe de la guerre des 6 jours, sous la direction de l'Union soviétique, alliée des Arabes, le monde arabe a mené une politique de guerre psychologique et médiatique contre Israël. Ayant perdu la guerre sur le terrain, eh bien, on a décidé de contre-attaquer sur le terrain de la propagande. Et les spécialistes soviétiques de l'agitprop sont venus à Damas et au Caire et ont mis au point une stratégie qui a été l'élaboration de la plus formidable entreprise de propagande et de désinformation de toute l'histoire humaine. Un véritable chef-d'œuvre dans ce domaine-là. Israël, avant la guerre des 6 jours, était considéré comme le petit David en face du Goliath arabe. Et c'est pourquoi Israël, jusqu'à sa victoire de 1967, avait la côte, notamment justement en Europe et aux États-Unis. Et les spécialistes de l'agitprop soviétique disent qu'il faut renverser la perspective. Il faut présenter au monde entier Israël comme l'énorme Goliath qui piétine le petit David arabe. Avouez que ce n'était pas évident, mais ils ont réussi. Et ils ont créé de toutes pièces un peuple fictif, un peuple qui n'avait jamais existé, le peuple palestinien. Jusqu'en 1967, on n'avait jamais parlé de peuple palestinien. Il y avait des réfugiés arabes, il y avait des populations qui vivaient en Judée-Samarie, qui étaient d'ailleurs, qui avaient la nationalité jordanienne et non pas palestinienne, et qui étaient d'ailleurs jordaniens contre leur gré. Et donc, on a créé ce peuple palestinien qui n'avait jamais existé. On lui a donné une histoire fictive, on lui a donné une origine fictive, soi-disant qu'il descendrait des Philistins, alors que les Philistins, comme je l'ai dit hier, sont des Européens qui sont venus de Grèce. Et donc, on en a fait ce peuple qui était écrasé, martyrisé par l'énorme Goliath israélien, armé jusqu'aux dents de chars ultramodernes. Et vous avez tous vu ces photos qui ont été relayées par les médias au moment des deux intifadas, où l'on voit des enfants palestiniens avec une fronde en train de tirer sur les chars, lancer des pierres sur les chars israéliens. Le petit David contre l'énorme Goliath. Et ça a marché. Ça a marché tellement bien qu'aujourd'hui, eh bien, la cause palestinienne est devenue la nouvelle religion de l'Europe décadente. Et pour sauver le monde entier, pour réaliser la rédemption grâce à tout ce que l'Europe est en train de préparer et le monde qui l'entoure, eh bien, il faut absolument détruire Israël, délendaest Israël. Il faut qu'Israël disparaisse pour que naisse ce monde de paix, de sécurité auquel nous rêvons. Et depuis ce temps-là, une propagande, mais sans équivalent dans le monde, est relayée constamment par tous les médias. Et les médias qui sont sponsorisés, qui sont financés par une super classe mondiale qui est tout entière acquise à la cause palestinienne, d'une seule voix, crient un malheur contre Israël. On criera un malheur sur toi. Il y a, ça c'est une information que je ne devrais pas vous communiquer, parce qu'elle n'est pas absolument vérifiée, mais il y aura de fortes chances pour qu'il y ait à Ramallah, mais ça c'est ultra secret, une officine de propagande où les meilleurs propagandistes du monde entier sont grassement payés pour étudier tous les moyens de la propagande et pour constamment vilipender Israël de telle sorte qu'Israël soit diabolisé aux yeux des nations. C'est cette propagande que le président Trump essaye de contrer en essayant justement de dédiaboliser Israël, et c'est une des raisons pour lesquelles lui aussi il est haï. Et sont haïs aussi les évangéliques, parce que les évangéliques ont voté en grande majorité pour M. Trump. Et les évangéliques sont joints par la super classe mondiale dans la même haine que celle qu'ils accordent à Israël. Ce qui veut dire que notre sort, à nous les évangéliques, est aussi lié à celui d'Israël, que nous voulions ou non, même si beaucoup d'évangéliques aujourd'hui essayent de se démarquer en disant nous sommes contre Trump, nous sommes contre Israël, etc. Et c'est quelque chose qui est en train ici d'être en marche et qui fait aussi partie des événements de la fin. Donc, on proclamera un malheur sur toi. Ça veut dire que ce sera une guerre de propagande, une guerre de propagande qui avait été aussi commencée par Hitler en son temps pour délégitimiser Israël, diaboliser Israël et mettre dans la conscience du peuple allemand et de l'Europe l'idée d'un génocide d'Israël, cette idée d'un génocide devienne acceptable. Aujourd'hui, le but de cette propagande a la même fin, à savoir préparer l'opinion mondiale à accepter l'idée d'une destruction d'Israël, cette destruction qui est annoncée dans le chapitre 63 d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure, où toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem. Maintenant, il y a un autre point intéressant, si je reprends les travaux du Baal HaTourim. Vous savez, il y a une méthode d'exégèse chez les Juifs qu'on ne connaît pas beaucoup dans nos milieux chrétiens, qu'on appelle Gzera Shava. Ça veut dire comparer ensemble des textes semblables. Cette expression Vekarata, c'est une expression qui est rare dans la Bible. Alors on s'est demandé, est-ce qu'il y a un autre texte où il est question de cette expression Vekarata? Eh bien oui, il y en a un deuxième, et nous allons le lire tout de suite. C'est dans le chapitre 16 du livre de la Genèse. Et c'est très intéressant, ce chapitre 17, ce chapitre 16, pardon, il concerne la fuite d'Agar dans le désert après avoir été chassée par Sarah, sa maîtresse. Et donc, voici ce qu'il est dit au verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Ceux qui connaissent Nitsana, il y en a plusieurs qui sont allés à Nitsana, savent que Nitsana est situé précisément sur cette route de Chour. C'est là que sont mes enfants. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, où vas-tu ? » Elle répondit, « J'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne chez ta maîtresse, humilie-toi devant elle. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta descendance, on ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils. » Et « Ukarata shmo Ishmael. » Et tu crieras, tu proclameras son nom, Ishmaël. Voyez-vous, c'est la seule fois dans la Bible où on retrouve cette même expression que celle que nous avons trouvée dans Deutéronome 21-29, où Karata lecha aracha be'arechet ayamim, on criera un malheur sur toi à la fin des temps. Toi, Sarai, toi, Agar, quand naîtra ce fils, tu crieras son nom, Ishmaël. Car l'Éternel a entendu ton humiliation, il sera comme un âme sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous seront contre lui. Alors ici, les commentaires du Baal Hatourim sont très intéressants. Ils nous disent ceci. Donc au temps de la fin, on proclamera, on criera un malheur contre Israël. Nous avons vu une guerre médiatique. Qui sera celui qui mènera cette guerre contre Israël. Réponse, Karata Shmo Ishmael, ça veut dire, c'est Ishmael. Ishmael, ça veut dire le monde arabe. Et le monde arabe mobilisera le monde entier, et en particulier l'Occident, marqué par ces vieux démons de l'antisémitisme, dans une croisade commune contre Israël. Vous trouvez ça aussi dans le psaume 83, où il est question de ce complot des nations contre Israël à la fin des temps. Il dit, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils disent, exterminons-les du sein des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils feront des complots. Édom et Ishmaël. C'est les deux têtes de la coalition qui est citée dans le psaume 83. Voyez-vous, à la fin des temps, Ishmaël, le monde arabe, réussira à réveiller au sein des dômes, c'est-à-dire de l'Europe post-chrétienne, les vieux sentiments d'antisémitisme qu'on croyait enfouis pour que l'Europe se joigne au monde arabe dans cette croisade contre Israël. Et comment le fera-t-il? Alors, cela aussi, c'est très intéressant. Il le fera comme ça s'est produit justement entre Sarah et Agar. Sarah et Agar sont deux femmes qui ont épousé le même homme, Abraham, pour toutes sortes de raisons. Bien, passons. Le fait est que c'est contre nature. Deux femmes ne peuvent pas se partager le même homme. Si elles le font, il y aura forcément conflit entre elles. Et c'est ce qui s'est passé entre Sarah et Agar. Le conflit a éclaté entre les deux femmes. Or, comme Sarah était la maîtresse, c'est elle qui avait le dessus, et c'est Agar qui s'est enfui. Et là, l'ange, nous l'avons lu dans le texte, dit à Agar ceci, « Agar, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Et ça, c'est intéressant. Parce que la Bible savait déjà ce que la médecine moderne a découvert seulement depuis quelques décennies, et qu'on découvre de plus en plus d'ailleurs, à savoir que dans le sein de sa mère, l'enfant est déjà conscient de ce qui se passe autour de lui. Et notamment, il va subir le contre-coup de tous les traumatismes que sa mère peut subir pendant la grossesse. Et il nous est dit ici, retourne chez ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Ça veut dire que Agar va subir de la part de Sarah toutes sortes d'humiliations qui vont se reporter sur l'enfant qui est dans son sein. Et Ishmaël va naître avec un complexe d'infériorité, un complexe de persécution et un complexe d'humiliation. Et ça, c'est quelque chose qui est resté dans l'islam moderne, qui place au centre des valeurs, si pour le christianisme la valeur suprême c'est l'amour, comme dira l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens chapitre 13, pour les Arabes c'est l'honneur. Et humilier un Arabe, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui doit être vengé dans le sang. Et c'est ainsi, par exemple, que l'islam porte encore aujourd'hui dans son souvenir l'humiliation des croisades. Pour nous, les croisades, c'est un épisode de l'histoire duquel on a tourné la page depuis longtemps. Pour les Arabes, c'est toujours l'actualité. Et nous sommes, nous, notamment les Français, pour eux, les franges, comme on dit en arabe. Franges, ça veut dire les francs, les croisés. Et les ayatollahs d'Iran, entre autres, s'en prennent constamment aux juifs et aux croisés, c'est-à-dire aux occidentaux, c'est-à-dire aux chrétiens que nous sommes. Et voyez-vous, les défaites que le monde arabe a subies d'Israël depuis 1948, et notamment au moment de la guerre des six jours, où, comme nous l'avons dit hier, les Arabes étaient sûrs de l'emporter, c'est une humiliation dont ils ne peuvent pas se défaire. Et cette humiliation implique forcément la disparition d'Israël. Et nous sommes ici dans une situation aussi qui a été décrite, parce que s'il est vrai que, comme l'avons vu, deux femmes ne peuvent pas se partager le même homme, deux peuples ne peuvent pas se partager le même pays. Et aujourd'hui, justement, on assiste à une situation absolument unique. Jamais le monde n'a atteint un tel degré de fourberie. On ose exiger des Juifs qu'ils partagent leur pays avec un autre peuple et leur capitale, Jérusalem, avec un autre peuple. C'est la pire des hypocrisies dans lesquelles on pouvait tomber. Jamais on a exigé ça d'un autre peuple. Or, si le fait que deux femmes, Agar et Sarah, se partagent le même or, mais cela conduit à un conflit entre elles, de la même manière, deux peuples qui veulent occuper la même terre, ça ne peut aboutir qu'à un conflit entre ces deux peuples. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est cette explosion, n'est-ce pas, comme il y a eu explosion entre Sarah et Agar. Et justement, le Baal HaTourim pose aussi la question, comment Ishmaël réussira-t-il à mettre de son côté Édom, le monde européen, pour qu'il se tourne contre Israël, en se plaignant d'être opprimé et humilié par lui? On croit rêver. 6-7 millions de Juifs humilient 100 millions d'Arabes. Mais il faut être complètement parti pour dire une chose pareille. Et pourtant, ça marche. Et voyez-vous, ça veut dire que l'existence même d'Israël est une humiliation pour le monde arabe. Parce que ça prouve que l'islam est faux. Ça prouve que l'islam n'est pas le peuple élu comme le prétend le Coran. Pas plus d'ailleurs, ça dénie aussi à l'Église le droit de se dire le nouvel Israël. Mais ça, l'Église l'intègre un peu mieux que le monde musulman. Mais le monde musulman ne peut pas supporter cela, parce que la visée du monde musulman, c'est de conquérir le monde entier à l'islam. Mais aussi longtemps qu'Israël existera, la conquête du monde par l'islam sera impossible. Donc il faut qu'Israël disparaisse. Alors on se plaint d'être opprimé par Israël, et on monte en épingle le moindre bobo d'un enfant israélien qui d'un enfant palestinien qui soi-disant a été attaqué par les méchants israéliens, etc. Et c'est ainsi qu'on crie un malheur contre Israël, comme l'avait dit ici notre texte. Or, il y a une devise qu'il faut savoir dans l'islam, qui est écrite sur le drapeau de l'Arabie Saoudite, Dar el-Islam bisaif. Ça veut dire le règne de l'islam se répand par l'épée et non pas par la prédication. Et si vous regardez toute l'histoire, c'est toujours par l'épée que l'islam s'est répandu, ou on se convertit à l'islam, ou l'on est massacré. Et c'est comme ça que l'islam se répand. Et c'est ainsi que l'islam a dominé aussi sur le peuple d'Israël. Et dans l'histoire, nous n'avons strictement aucun exemple où Israël aurait dominé sur le monde arabe. C'est toujours l'inverse qui s'est produit. Mais le mensonge est tellement énorme qu'aujourd'hui, il est cru. Et on considère qu'effectivement, eh bien, aujourd'hui, le monde arabe est opprimé, humilié par le méchant peuple d'Israël et que c'est ce peuple d'Israël qui doit ainsi disparaître. Gog est l'instrument dont Ishmaël se sert et qui est aujourd'hui dans cette situation dramatique à laquelle nous assistons. Bien, je vais m'arrêter là, mon temps est terminé, et je conclue en disant, eh bien, nous vivons effectivement une actualité. Et cette actualité, ça nous amène aussi à en tirer des conséquences pratiques. Il faut savoir que derrière cette propagande anti-sioniste, eh bien, il y a les puissances d'Ishmaël, mais derrière Ishmaël, il y a aussi la puissance des ténèbres, la puissance de Satan. Et par conséquent, la première chose que nous devons faire, pour notre propre intérêt d'abord, eh bien, c'est de démasquer les mensonges de l'ennemi. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas accès aux informations exactes. Mais, comme le disait Jacques Ellul, qui était un Bordelais, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de la propagande, il disait déjà de son temps, aujourd'hui, quand on vous donne une information, notamment sur Israël, commencez par la mettre en doute jusqu'à ce qu'elle ait été révélée vraie. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'en plus de ça, le fin du fin de l'art de la propagande, c'est de mêler habilement le vrai et le faux. Parce que si tout était faux, ça paraîtrait trop gros. Le mensonge ne passerait pas. Mais l'art du propagandiste, c'est de mêler le vrai et le faux pour que finalement, en dernier ressort, ce soit le faux qui domine. Alors, c'est pas facile. Mais je crois qu'il y a une chose importante, c'est de reprendre ce que la Bible dit. Israël n'est pas parfait. Nous en parlerons peut-être plus cet après-midi quand nous parlerons de la crise actuelle. Loin de là. Et il est vrai que Israël devra passer aussi par des temps de repentance, ça on n'en doute pas. Mais néanmoins, Dieu est derrière ce qui se passe et Dieu est en train d'accomplir ses plans et ses desseins. Et comme nous exhorte l'apôtre Paul à le faire, nous n'avons pas à être les juges d'Israël, nous avons à être les témoins. Dieu est assez grand pour s'occuper lui-même, régler ses comptes avec son peuple, il le fera sans nous. Et nous avons simplement à être des témoins silencieux et craintifs, parce que ce qui arrive à Israël peut nous arriver aussi si nous sommes infidèles de ce procès que Dieu a avec son peuple. Et là, nous sommes dans un temps où il faut démasquer justement ce malheur que l'on criera sur toi au temps de la fin. Parce que comme je l'ai dit, ce malheur, on le crie aussi sur nous, sur les évangéliques. Et nous sommes dans le même bateau, défendre Israël, c'est nous défendre. Nous aussi. Voilà, je terminerai simplement sur cette page.